Catherine Huguel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale d'Hugo Gestion. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés financiers. On a l'impression que les investisseurs vivent au gré des nouvelles liées aux banques centrales, que ce soit côté réserve fédérale américaine que banque centrale européenne, avec des attentes à chaque fois importantes. Alors, quand les banquiers centraux répondent favorablement aux attentes, ça fonctionne bien. Est-ce que les marchés ont pas changé un petit peu de phare, finalement, aujourd'hui, en étant complètement collés à ce qui se passe au niveau des banquiers centraux?
En fait, les attentes sont importantes, mais elles sont importantes au regard de l'importance de la crise européenne, en fait. S'ils attendent autant, si je veux dire, de la Banque centrale européenne d'un côté, on parlera peut-être du Fed ensuite, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Je veux dire, sur la zone euro, on vit une crise systémique qui vient de la crise de la dette publique, et le fait que, en fait, la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne ne fonctionne plus au sein de la zone euro, du fait, comme l'a dit, rappelé Mario Draghi, que les canaux de transmission de la politique monétaire impulsée à Francfort, en définitive, n'arrivent pas à provoquer un taux d'intérêt unique monétaire dans la zone, du fait des disparités qui existent sur les spreads dans les pays du Sud, c'est un problème de fond pour une banque centrale européenne. Donc, parce que sa politique monétaire devient inefficace. Et là, il s'agissait carrément, en définitive, de la confiance dans la monnaie unique. Donc, on comprend mieux que les attentes des marchés, en effet, soit majeur. Bon, à cet égard, je pense que la décision qui a été annoncée par Mario Draghi est justement une décision majeure, surtout qu'elle est confortée le 12 septembre par l'adoption par la Cour constitutionnelle allemande
Donc ça a levé certains
du
doutes.
MES et du pacte budgétaire. En fait, l'Europe est en train de vivre une avancée fondamentale qui dérive directement de cette crise. Et je pense qu'à terme, on va vers une modification du traité de Rome, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences politiques bien au-delà, si vous voulez, aujourd'hui. Mais la confiance dans la monnaie unique a été, si vous voulez, confirmée, et ça me semble un élément majeur, si vous voulez, à l'évolution et à la marche en avant de l'Europe.
Oui, parce qu'il y avait eu, on peut le dire, hein, depuis des mois, voire des années, quelques paris qui avaient été faits par certains investisseurs et jusque c'est effectivement ces dernières semaines d'éclatement de la zone euro et qu'effectivement il y a une crise encore pire, on va dire, c'est pas sûr pas avoir pire que ce qu'on a en ce moment, mais une crise encore supplémentaire en zone euro et éclatement de la zone euro.
Bah, c'est-à-dire que ceux qui, depuis le départ, hein, depuis la création de la monnaie unique, n'ont jamais cru dans la monnaie unique et ont toujours dit que ça ne fonctionnerait jamais, si vous voulez, on retrouve cette spéculation, je veux dire, qui s'anime contre l'euro de façon, j'allais dire, permanente. Donc, ce sont des points majeurs. C'est pour ça que beaucoup reprochent la lenteur, si vous voulez, du traitement de cette crise. Et là, on retrouve l'approche allemande. Certes, ça va lentement, mais à chaque étape, chaque étape est constituée, si vous voulez, de façon, après un long travail de fond, et chaque étape nous fait passer une marche de plus, on va vers l'avant. Et je pense que là, franchement, l'évolution et le soutien à l'euro par la BCE est franchement conforté.
Alors, si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, il y a d'autres attentes, vous l'avez dit, par rapport à ce que pourrait faire Ben Bernanke, effectivement. Là, on a aussi des plans de soutien, différentes méthodes qui ont été utilisées par le Fed, mais on pourrait dire que l'économie américaine, pour l'instant, eh bien, a encore du mal.
Oui, mais en fait, vous voyez bien que la nature est complètement différente. Ce n'est pas le dollar américain en tant que tel qui est remis en question. Au contraire, il sert aujourd'hui, face à l'euro, de monnaie de refuge. Donc le problème au niveau de l'économie américaine, c'est qu'en définitive, la croissance américaine actuelle n'arrive pas à enclencher, si vous voulez, un rythme suffisant et reste sous son sentier potentiel. qui est de 2,5 sur le long terme. Et aujourd'hui, on tourne autour de 2. Et le fait qu'il y ait cet écart entre le sentier potentiel et le taux de croissance actuel fait que, si vous voulez, la dynamique de l'emploi n'est pas suffisante pour résorber, si vous voulez, le sous-emploi du marché du travail américain, dont Bernanke, si vous voulez, s'alarme, ce n'est pas nouveau, déjà, depuis des mois et des mois. Donc, moi, j'étais à Washington en mars dernier. Son discours, il n'est pas étonnant. Il reste le même, si vous voulez. Les États-Unis, pendant la crise, ont détruit 8 millions d'emplois. Ils en ont recréé 4 millions. Il en manque 4 millions. Et le Fed estime que le taux de chômage de longue période normalisé doit être à 6. Et on reste au-dessus de 8. Et aujourd'hui, on est sur un rythme de création d'emplois, si vous voulez, qui est inférieur à ce qui est nécessaire pour absorber la hausse de la population active. Donc il faudrait 110 000 à 115 000 emplois créés par mois, rien que pour absorber la dérive de la population active, c'est-à-dire pour maintenir le taux de chômage, si vous voulez, stable. Or aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup Bernanke, c'est le coût social de ce sous-emploi. Le taux de participation de la main-d'œuvre aux États-Unis, aujourd'hui, il n'est plus que de 53,6%. De la population active en âge de travailler qui travaille réellement. Donc c'est ce qu'on appelle une économie de sous-emploi, si vous voulez, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a déception sur l'économie américaine. Ceci étant, l'économie américaine, elle tourne. Il faut comprendre que le 1,8 à 2% de taux de croissance actuel, il correspond à une croissance plus élevée de la demande privée, et c'est le secteur public qui représente 18,3% du PIB, qui, en coupant dans les dépenses publiques, crée une contribution négative. Un des secteurs qui détruit le plus d'emplois aux États-Unis, ça reste le gouvernement. C'est-à-dire le fédéral et les collectivités locales, depuis maintenant plus de 2 ans, du fait de la crise financière des collectivités locales et du fait du début des coupes budgétaires totalement significatives dans les dépenses, en particulier militaire américaine.
Alors, du côté de l'investisseur, justement, dans cette période-là, vous vous intéressez particulièrement à la partie obligataire. On a l'impression, quand on voit les taux aussi bas, qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur cette partie-là. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant qu'investisseur, justement, qu'est-ce qui vous a intéressé durant cette période?
En fait, si vous voulez, les performances obligataires cette année sont excellentes du fait qu'on a une baisse des taux d'intérêt, puisqu'on beaucoup craignait la hausse des taux d'intérêt ces dernières années. En fait, il n'y a pas de hausse des taux d'intérêt. On a une baisse comme on a rarement eu des taux d'intérêt sur toute la courbe, qui s'est encore accentuée sur les maturités de 1 à 3 ans depuis que la BCE a dit qu'elle les achèterait sur le marché secondaire. Donc, qui dit baisse des taux dit gain en capital sur les obligations. Donc, plus un phénomène qui s'ajoute à ce gain en capital lié à la baisse des taux, sur les derniers mois, en particulier, plus particulièrement récemment, un écrasement des spreads de crédit particulièrement fort, si vous voulez, sur les emprunts de l'Europe du Sud, mais qui avaient été éminemment maltraités les mois précédents, mais tout du moins ceux qui avaient gardé leurs papiers sur, par exemple, des entreprises italiennes ou espagnoles qui ont des bilans solides et des bons résultats et qui font remonter du cash flow, ont gagné beaucoup d'argent. Et si vous voulez, justement, comme vous dites que les taux courts, c'est vrai que la courbe aujourd'hui en Europe, entre le JJ et le 2 ans, on est par exemple sur la France, le JJ, on est à 0,10 et sur le 2 ans à 0,17. Donc la courbe est complètement écrasée. Vous voyez bien que face à une inflation en face de 2%, vous voyez bien que les rendements sont négatifs. Donc tout converge vers zéro. Donc pour les investisseurs, une des façons de garder, si vous voulez, du rendement dans cet environnement de taux d'intérêt effondré, bon, c'est les emprunts corporels.
Progressivement,
évidemment, cette baisse des taux souverains s'est diffusée sur le corporate, donc plus particulièrement d'ailleurs sur le corporate de l'Europe du Nord, puisqu'aujourd'hui, une entreprise comme Siemens a émis il y a 15 jours récemment sur du 2 ans à 0,25. Donc vous voyez, en fait, l'effet d'aubaine pour les entreprises européennes de l'Europe du Nord, si vous voulez, qui aujourd'hui ont des coûts de financement qui tangentent zéro. Donc, pour obtenir encore des rendements courants sur l'obligataire et le corporate. Il fallait donc travailler plus particulièrement des entreprises peut-être de taille plus petite que les grands groupes multinationaux dont je vous parle, certains groupes français qui paient encore des rendements, et plus particulièrement des groupes italiens ou des groupes espagnols, puisque nous, on s'est toujours interdit de faire de la Grèce. Et chaque, si vous voulez, on étudie chaque dossier d'emprunt obligataire en descendant les comptes entreprise par entreprise. Je pense que c'est vraiment l'approche aujourd'hui pour offrir encore à la clientèle des rendements, je veux dire, ce n'est pas mirifique, mais quand le Gigi est à 0,10, si vous pouvez encore offrir, si vous voulez, sur un fonds de durée de vie moyenne d'un peu moins de 2 ans, cette année avec le gain en capital, plus l'écrasement des spreads entre 4,75% par rapport au Gigi, pour des durées un petit peu plus longues, ça intéresse la clientèle, d'où d'ailleurs le très fort succès des fonds corporates et plus particulièrement d'ailleurs du high yield dans ce secteur-là.
Voilà, un marché à suivre. Merci d'avoir fait le point avec nous, Catherine Huguel. On rappelle que vous êtes donc directrice générale d'Hugo Gestion.